On en a découvert déjà deux des encres de la foi. Qu'est-ce qu'il peut me les dire? Je fais le prof un peu. Parlez fort et distinctement. Encouragez-vous sans cesse. Exactement. C'est ce qu'on a vu. Le baptême, c'est une belle encre, ça. Exactement. Est-ce qu'il y en avait d'autres encore? On est frères et sœurs en Jésus. Amen. Une dernière. Pardon. Jésus, fils de Dieu. Ce n'est pas des choses révolutionnaires hein, quand on est chrétien, mais c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer et puis sur lesquelles on peut toujours creuser à nouveau pour aller en profondeur chercher là où est vraiment la source de la foi. Et puis dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit, c'est pourquoi nous devons nous attacher toujours plus et d'autant plus fermement à tout ce que nous avons entendu et notamment ces vérités-là. Dans quel but? C'est exactement dans le même sens que l'avion, afin de ne pas nous perdre. On pense qu'on les sait, ces choses-là, mais on a toujours besoin d'y revenir, les approfondir, afin de ne pas nous perdre. Parce qu'on est tous sujets à s'égarer et à louper la cible. Encouragez-vous, et c'est dans ce sens-là qu'on va aussi aller ce matin, après avoir vécu dimanche passé ces beaux cultes de baptême. On aura et on recevra, avec les enfants qui sont en train de s'amuser derrière, des paroles pour nous encourager dans la foi. Et nous encourager non seulement dans l'état actuel, mais dans le but aussi que notre foi grandisse. Pas qu'elle reste stable, ni qu'elle reste peut-être en décroissance, mais vraiment dans le but qu'elle puisse s'agrandir, pour que nos cœurs puissent s'agrandir. Alors, est-ce que vous savez quelle est la définition de la foi dans l'Épître aux Hébreux? C'est un verset assez célèbre. Il y a Marie qui en a sorti une version qui était un peu spéciale. Moi, j'ai une meilleure version. La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses que l'on ne voit pas. Ça parle plus, ça, cette version-là. Non, c'est un peu énigmatique quand même. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit que c'est des choses que l'on ne voit pas, des choses que l'on espère, qui ne sont pas vraiment palpables. Puis qu'est-ce qu'il fait juste après? Il dresse une liste de ceux qu'on a appelés les héros de la foi. Donc comme s'il fallait que la foi, pour qu'elle soit quand même vécue et palpable, il fallait quand même qu'elle soit visible à travers des personnes, des êtres humains comme vous et moi. Et il en fait la liste. Et puis avec Marie, on va un peu vous raconter qui se cache derrière ces personnages qui sont nos héros de la foi. Alors, je crois que Marie, tu en as un qui est un peu particulier. Tu peux nous en dire plus un peu?
Je n'étais pas sûre. Dans cette liste de Hébreux 11, on parle d'un homme qui s'appelle Enoch. Enoch, il n'y a que quelques phrases dans la Bible. Enoch, c'était le fils de Jared, c'était le père de Mathusalem, et dans sa descendance, il y a eu Noé, c'était son arrière-arrière-petit-fils. Enoch, on ne sait pas grand-chose sur lui. On sait juste qu'il a marché avec Dieu et qu'il a été enlevé. Il n'est pas mort, il a été enlevé. Il a vécu, on dit, 365 ans, une broutille par rapport à son fils, qui a vécu à peu près plus de 900 ans, je crois. Ne vous fiez pas forcément aux chiffres. Mais je me suis demandé pourquoi on avait cité cet homme-là, Enoch, celui qui marchait avec Dieu. C'est tout ce qu'on sait. Dans la tradition juive, la généalogie est très importante. Souvent, quand les Juifs se rencontraient, ils refaisaient la généalogie. Tu es le fils de, et c'est qui ton grand-père? Et puis c'est qui? Et ils remontaient comme ça. D'ailleurs, il y a un livre de Marek Alter qui s'appelle La mémoire d'Abraham, qui parle de toutes ces généalogies. Je me suis dit que si cet homme avait été cité, celui qui marchait avec Dieu, il n'a pas accompli certainement des grandes choses dans sa vie. Mais on s'est souvenu de lui. Et donc, comme tout à l'heure, je vous disais, peut-être que vous vous sentez inutile, froissé. mais peut-être que vous marchez avec Dieu et on se souviendra de vous comme ça. Peut-être que vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants diront « C'est lui ou elle qui marchait avec Dieu. » Et il a fallu juste une petite phrase dans Hébreux pour qu'on s'en souvienne.
Ensuite, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle d'un homme qui s'appelle Noé. Et Noé, je pense qu'il n'y a pas mieux pour illustrer ce verset que la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses que l'on ne voit pas. Parce que Noé, il a reçu une parole du Seigneur qui disait qu'il fallait qu'il se prépare à affronter, puis ça tombe bien dans le contexte actuel, un déluge. Il a reçu cette phrase de la part de Dieu, cette parole de la part de Dieu. Et la deuxième parole, c'est qu'il devait construire un immense bateau pour contenir tous les êtres vivants, pour les sauver de ce déluge et ensuite permettre à la vie de continuer. Mais ce que l'on ignore assez souvent, c'est que... Il y a une attaque d'un ton. Ce qu'on ignore souvent, c'est que Noé, il s'est mis au travail plusieurs dizaines d'années avant que le déluge n'arrive. Alors je vous laisse imaginer, il était peut-être sur sa plage ou devant sa maison. Et il a commencé à construire son arche parce qu'il a cru à la parole que Dieu avait prononcée sur sa vie. Je vous laisse imaginer la réaction des autres voisins et autres, peut-être même membres de sa famille, lorsqu'ils voyaient ce brave Noé construire son arche tout seul comme un grand, alors qu'il n'y avait pas une seule goutte d'eau à l'horizon, pas un seul torrent qui débordait. Et pourtant, il a continué, parce qu'il avait cette espérance que la parole de Dieu était juste, et que grâce à cette foi-là, dans des choses qui n'étaient absolument pas visibles, il a pu servir de sauveur pour la vie. Et ça, c'est un exemple de foi assez extraordinaire. Peut-être que des fois, on se demande... Qu'est-ce qu'on fait? Dans quel but? Si on a cette conviction que Dieu nous a mis cette parole sur notre cœur, je pense qu'il est juste de continuer, même si on ne voit pas tout de suite les effets. Il a passé certainement un peu pour un fou. Je pense que nous, croyants, on passe certaines fois aussi un peu pour des fous avec les convictions qu'on peut avoir. Est-ce qu'il y en a encore un autre, Marie, de héros de la foi?
Mais oui! Dans Hébreux 11, il y a également Moïse. Je pense que si Moïse, on lui aurait dit « voilà ce que tu vas vivre », il n'aurait pas signé, probablement. En tout cas, moi, je n'aurais jamais signé. Figurez-vous, c'est un garçon. Quand il est né, il y a eu un génocide. Les garçons du peuple hébreu étaient tués. On l'a mis dans une corbeille, sur le Nil. Bien sûr, il était surveillé par sa sœur, mais... Dans le Nil, je ne sais pas si vous avez vu des attaques de crocodiles. Ça va vite. Ça fait, je veux dire, il a déjà échappé à ça. Dieu avait certainement un plan pour lui. Et puis, il a été recueilli par la princesse, la fille du pharaon. Ça aussi, c'est une chose incroyable quand on y pense. Franchement, à cet endroit-là, va se baigner la princesse. Des fois, il nous arrive des choses dans la vie, on se dit, non, mais ce n'est pas possible. Quand Dieu a un plan... Il grandit à la cour de Pharaon et à l'âge adulte, tout d'un coup, il se rend compte de la réalité du peuple à laquelle il appartient. Il tue un homme et s'enfuit. Il part dans le désert et il va au pays de Madian. Donc, il le traverse déjà une fois, le désert. Finalement, il trouve là-bas un homme qui s'appelle Jéthro. Il se marie avec la fille de Jéthro, Séphora. Puis, il devient berger. Et un jour, au bout de certainement plusieurs années, Dieu lui parle à travers un buisson ardent. Moi, j'aimerais bien qu'on me parle à travers un buisson ardent parfois. Et puis, quand Dieu lui dit, tu vas aller délivrer ton peuple, enfin mon peuple, le peuple hébreu, il dit, non. non, je pense qu'il faut... tu t'es trompé de personne. Ce n'est pas moi, il y en a qui sont bien meilleurs que moi. Mais Dieu insiste et lui dit, mais tu vois, je suis en train de plier ton avion en papier. Hein? Je suis en train de te faire pour que tu atteignes la cible. Et puis, il confie à Moïse à Aaron qui va parler pour lui. Moïse, il retraverse le désert. Il va à la cour de Pharaon. Et puis, on connaît tout ce qui se passe. Hein. Il affronte Pharaon, il y a les 10 plaies d'Égypte. Enfin, ça devait être quelque chose de... Nous, on est déjà à terre avec un petit virus, mais vous imaginez le reste, là, qui leur est arrivé. C'était quelque chose. Et puis, tout d'un coup, enfin, pas tout d'un coup, mais Pharaon dit, « Ok, vous pouvez partir. » Il faut vous rendre compte que le peuple hébreu, à cette époque-là, ça représentait 600 000 familles. Donc, ce n'est pas des familles à deux. Hein, je pense qu'il y avait beaucoup d'enfants. 600 000 familles. Et puis, on connaît aussi l'histoire hein, que juste avant le départ, ils fêtent la Pâque, ils tuent l'agneau, ils mettent le sang sur les montants de la porte et les gens qui font ça sont protégés de l'ange de la mort qui passe et tue les premiers-nés des Égyptiens. Et puis, à un moment donné, quand ça est arrivé, ils se mettent en marche. 600 000 familles qui se mettent en marche. C'est quelque chose. Et puis ensuite, une fois que, voilà, ils ont quitté et qu'ils ont commencé à quitter l'Égypte, ils se font poursuivre par les soldats, ils arrivent devant une mer, et là, la mer s'ouvre. Mais vous imaginez tout ce qu'un homme a vécu? Ils arrivent à passer, et puis finalement, ils arrivent dans le désert. Allez, une troisième fois pour Moïse. Mais cette fois-ci... C'est compliqué. 40 ans dans le désert avec des gens qui râlent. Des fois, nous, une journée, c'est bon, quoi. 40 ans, 600 000. On dit qu'après 2 ans, ils étaient 603 000. C'était quelque chose. Et puis finalement, après tout ce périple, Moïse, une fois, il se fâche, il s'énerve. On comprend. Et pour ça, Dieu lui dit, tu ne pourras pas entrer dans le pays promis. Mais c'est quelqu'un d'autre qui ira à ta place. Mais je te le laisse le voir. Et cet homme qui a vécu 1000 vies, il n'a jamais, jamais lâché Dieu. Et pourtant, je pense qu'il y aurait eu de quoi.
On termine cette série avec le père, finalement, de tous les croyants, qui s'appelle Abraham. Abraham, il a cette faculté extraordinaire de se mettre en route comme Noé sur une seule parole de Dieu. Une seule parole de Dieu qui lui dit « Abraham, tu seras père d'une multitude » alors qu'il était tout seul avec sa femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. L'attestation des choses que l'on ne voit pas. Vous connaissez l'histoire, la promesse va se réaliser. Mais il avait vraiment dans son cœur, pendant des dizaines d'années, là aussi, comme Noé, cette attestation qui lui a permis de continuer d'aller de l'avant. Et moi, ça m'interpelle sur la qualité de cette foi. On en a juste pris 4, on pourrait en prendre beaucoup d'autres. Ça m'interpelle vraiment à quel point ces ancres que Dieu peut mettre dans nos cœurs, ces attestations qui sont là, comme elles peuvent nous faire aller de l'avant, comme elles nous permettent d'être dynamiques, comme elles nous permettent d'atteindre la cible que Dieu a prévue pour nous. Abraham, il a vécu une vie riche de rebondissements, il est parti à l'étranger, il est parti là où il ne savait pas ce qu'il attendait, mais il avait cette attestation en lui que Dieu allait le conduire et que sa parole resterait vraie. Et je crois que pour nous, ces 4 personnes, c'est plutôt pas mal comme exemple, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça nous donne cette attestation que même si on ne voit pas, on peut aller de l'avant. Et puis Marie, est-ce que toi, actuellement, au 21e siècle, il y a quelqu'un que tu trouves être un héros, une héroïne de la foi ? Enfin, c'est bien joli tous ces vieux personnages, mais est-ce qu'il y en a encore maintenant ?
C'est une question qu'il m'avait déjà posée dans la semaine, et quand il me l'a posée, je me suis dit, qui je vais choisir ? J'ai beaucoup réfléchi, et c'est vrai qu'il y a des tas d'hommes et de femmes qu'on connaît, qui sont connus, qui sont des héros de la foi, ou des héroïnes de la foi. Pour moi, un héros ou une héroïne de la foi, c'est toi, qui a eu des difficultés dans la vie, qui a été à terre, qui a été à genoux, mais qui n'a jamais lâché. C'est eux, c'est vous. Bien sûr qu'on peut être connu, on peut être Mère Teresa, enfin je sais pas, très bien, ils ont eu une visibilité. Mais c'est vous qui, dans le secret, avait tenu bon. Et ça, c'est un exemple. Qui, dans les difficultés, ne se sont pas mis en avant, mais n'ont pas lâché Dieu. Et se sont dit, ok, je ne sais pas pourquoi, mais je te fais confiance. Voilà.
Merci, Marie.
Eh bien alors, et toi ?
Ah, moi ? Moi, j'allais dire la même chose. Tu m'as enlevé les mots de la bouche.
On
s'est pas concerté. Non, puis une autre personne qui m'a inspiré cette semaine, c'est quelqu'un qui s'appelle Francis Collins. Je l'ai déjà entendu quand je préparais les cours Alpha, parce qu'il donnait à plusieurs reprises dans le cadre des cours Alpha son témoignage. Et ce Francis Collins, c'est un grand scientifique américain qui est à la tête de l'Agence de santé des États-Unis. Donc c'est quand même plutôt un poste à responsabilité. Et il a découvert la foi en étant scientifique. Et dans notre période un peu particulière au niveau santé, où on ne sait pas exactement qui de Dieu, qui de la science peut nous aider à sortir de cette crise, j'ai lu un article cette semaine où il disait simplement que les deux peuvent marcher main dans la main. Les deux ne s'opposent pas l'un à l'autre. C'est tout simplement son message de se dire que Dieu donne aussi des capacités à des scientifiques à travers la raison, pour aussi atteindre le but que lui-même, Dieu, a pu fixer. Et du coup, c'est vrai que c'est assez extraordinaire de voir que Dieu place aussi des hommes comme ça à la tête de l'Agence de santé des États-Unis qui déploie tout ce programme de vaccination. Et il peut dire avec foi que c'est Dieu qui l'a placé à cet endroit-là. Alors moi, cette semaine, c'est lui qui m'a inspiré. Dans ce contexte des fois où on se pose plein de questions, il disait simplement, vous pouvez mettre votre confiance dans les deux éléments, parce que certainement que Dieu nous donne une raison avec laquelle nous pouvons aussi agir et faire de bonnes choses. Et puis ça m'a aussi fait penser à simplement notre vie d'église. J'ai fait un petit flashback dans ma tête quand je pensais à cette attestation des choses que l'on ne voit pas. Quand j'ai pensé en ministère enfance-jeunesse au mois de novembre. Je ne sais pas si ça vous fait un petit flashback, c'était il y a 6 mois à peu près. Mois de novembre, on a de nouveau dû fermer notre église. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant 7 semaines, on a de nouveau dû laisser porte close. Et puis moi, ce n'était pas tellement pour vous que j'avais un guillemets souci ou que je m'inquiétais, mais c'était pour tout le ministère enfance-jeunesse, tous ces enfants que Dieu nous a confiés. Et si on devait arrêter la vie d'église en présence, on devait aussi arrêter l'accueil des enfants parce que ça ne valait pas finalement le coup d'ouvrir pour eux. Et là, on était quand même un peu dans le doute. Et puis, maintenant, au mois de juin, on voit que la foi qu'on avait, que cette transmission de ce qu'il y a de plus profond dans notre cœur pourrait continuer, a vraiment pris corps. Parce que mi-décembre, on a pu rouvrir seulement avec 30 personnes, qui a plein de personnes qui se sont dit « mais ça vaut la peine ». Et là, en équipe pastorale puis en conseil, je me souviens encore très bien de notre réaction. On a dit « c'est la meilleure nouvelle inespérée parce qu'on était les seuls lieux à pouvoir rouvrir ». Pourquoi ? Parce qu'on pourrait rouvrir tout le secteur enfance-jeunesse de dimanche matin. Et après coup, on se rend compte finalement qu'on n'a quasiment pas perdu de semaine où on a pu, en toute liberté, transmettre ce qu'il y a de plus important dans nos cœurs. Alors aujourd'hui, c'est aussi un moment de reconnaissance, puis de se dire que même des fois, dans une vie communautaire, il y a une attestation des choses que l'on ne voit pas, parce qu'on aurait très bien pu rester 6 mois fermés, 6 mois sans, comment dire, école du dimanche. Mais là, on a juste eu 6 semaines. Et pour moi, c'est un grand sujet de reconnaissance, d'oser voir aussi la main de Dieu sur ces éléments qui paraissent insignifiants. Mais cette réouverture des églises au mois de décembre a été pour nous décisive. Et puis maintenant, on est tous réunis. Et puis, on les voit qui vont nous apporter quelque chose ce matin. Alors, je vous invite simplement à la prière pour exprimer à Dieu notre reconnaissance. Notre Père, merci parce que tu mets en nous cette foi. Merci parce que tu places dans nos cœurs ces attestations sur lesquelles nous pouvons bâtir notre vie. L'attestation que tu nous aimes tels que nous sommes, que tu veux nous sauver de notre péché et que tu nous prépares une place là où tu es. Merci parce que nous pouvons, avec ces attestations, nous encourager les uns les autres. Et merci parce que, en regardant en arrière sur cette année particulière et particulièrement aussi sur ce ministère enfance-jeunesse, nous pouvons te dire toute notre reconnaissance d'avoir pu continuer à vivre tout simplement ce que nous avons à vivre avec les enfants et les ados de notre communauté. Je te demande de les bénir de manière particulière. Fais grandir cette foi déjà dans leur cœur et aide-nous à être ces témoins, de pouvoir attester aussi la foi, notre foi, auprès d'eux. Amen.